Je suis content de venir présenter notre frère Jerry, père de trois enfants, un beau gars, deux filles. Mon père faisait cette blague-là. Alors, de trois enfants et pasteur dans une église depuis 1993 jusqu'à 2010. Il travaille à temps plein auprès des couples depuis 2010. Et si vous avez remarqué, j'ai pas prié pour lui tantôt. Parce que je voulais non seulement présenter Jerry, mais aussi le contexte dans lequel Jerry arrive, qui lui était complètement innocent là-dedans. Et puis moi, j'ai eu l'occasion de voir les blocs se placer en place, autant au niveau de l'horaire, les prédications, toutes ces choses-là. Et puis la semaine passée, on vous a annoncé, ceux qui n'étaient pas là, vous lisez la petite feuille jaune, qu'on voulait entrer dans une série de plusieurs messages pour former l'Église, préparer l'Église à une journée le 14 octobre. Et sans le savoir, Jerry, j'ai annoncé hier que lui, faisait le lancement. Mais il ne savait pas. Et quand que j'ai demandé « Sur quoi tu aimerais ça prêcher? » Et là, il m'a dit « Le pardon. » Et il ne savait pas ce qui se passait. Et j'ai dit « C'est exactement ce que le Seigneur veut pour nous. » Et moi, je m'attends au Seigneur et je vois le Seigneur travailler. Et puis ma prière, c'est qu'il travaille dans chacun de nos cœurs. Et on va prier pour Jerry et pour nos cœurs aussi. Seigneur Dieu, tu es vivant et tu agis. Et Seigneur Jerry, qui va nous ouvrir la parole pour nous enseigner, Seigneur, est un messager qui va nous annoncer ce que ta parole a à nous dire à chacun d'entre nous dans nos cœurs. Ouvre nos cœurs. Enseigne-nous. Enlève ce qui, à l'intérieur de moi, premièrement, peut nuire à la relation avec toi. On veut apprendre à te connaître. On veut apprendre à te désirer et à aimer nos frères et sœurs dans l'Église. Ouvre la bouche de Jerry avec une puissance qui vient de toi. Bénis ton serviteur à travers la parole, Seigneur. Amen. Jerry.
Donc, bonjour à tous. Que Dieu soit glorifié par notre temps ensemble ce matin. En effet, je devrais dire rebonjour, car j'ai prêché ici à la fête des Pères l'an dernier, et j'imagine que la plupart d'entre vous étaient présents à ce moment-là. Ma prédication de ce matin sera la première fois depuis longtemps où je ne parlerai pas du mariage. Une des premières fois depuis que Cathy et moi avons débuté notre ministère envers les couples en novembre 2010. Mais je vais quand même parler des relations interpersonnelles avec un message que le Saint-Esprit a placé sur mon cœur et maintenant avec les paroles de mon frère, je vois qu'il l'a placé d'une façon assez souveraine. Merci. Je pense que c'est un message spécifiquement pour votre Église ce matin. Comme introduction, j'aimerais simplement souligner pour vous le fait que très souvent, quand Jésus a déclaré des vérités spirituelles, il y avait à la fois une application spécifique pour une ou quelques personnes et en même temps, une application collective pour un grand groupe ou même pour tous. Je m'explique. Par exemple, en Luc 18, quand Jésus a dit au jeune homme riche, « Va vendre tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. » Il y avait à ce moment-là une application, un appel spécifique pour cet homme et en même temps une application collective un peu différente, mais aussi réelle pour tous ceux qui étaient présents et entendaient ces paroles, les disciples et d'autres, ainsi que pour nous tous qui avons lu et entendu ces paroles à travers les siècles. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Pour le jeune homme riche, ça voulait dire quelque chose de très spécifique, mais la vérité était vraie pour tous d'une autre façon. En Jean chapitre 8, quand Jésus a dit à la femme adultère, « Moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. » Il y avait une application spécifique pour cette femme, mais en même temps, il y avait une application collective pour les autres qui l'écoutaient, c'est-à-dire la même vérité, mais dans des domaines différents, non pas nécessairement l'adultère, mais dans d'autres domaines. Et de la même façon, dans la parabole du vigneron en Luc 20, il y avait un message à l'intérieur de cette parabole qui était une application spécifique pour les pharisiens et une autre application générale collective pour les autres. Je crois sincèrement que c'est exactement ça que Dieu veut accomplir à travers ce message ce matin. Il y aura des applications différentes pour différentes personnes à différents niveaux et c'est le Saint-Esprit qui va faire tout ce travail-là. Ce message va adresser deux sujets, deux paix absolument nécessaires. Le premier, c'est l'importance et la nécessité d'accorder un pardon entier. Le deuxième est l'importance de bâtir la paix dans nos relations interpersonnelles. S'il te plaît, prépare ton cœur à recevoir le message et l'application que le Saint-Esprit de Dieu a pour toi ce matin à travers ce message. Non pas le message qu'il a pour ton voisin, le message qu'il a pour toi. Prions de nouveau. On va prendre quelques secondes de silence. Ça peut être un moment inconfortable pour certains, tant mieux que le Saint-Esprit fasse son travail et prépare nos cœurs. Saint-Esprit de Dieu, Jésus t'a envoyé spécifiquement avec le ministère de nous enseigner et de nous conduire dans toute la vérité. Fais ton travail ce matin, Seigneur, à travers cette prédication. Touche chaque cœur de la manière que toi, Saint-Esprit, tu veux le toucher. Tu es souverain sur cette Église. Jésus est le chef. Le Père veut être glorifié. Fais ton travail. J'aimerais que chacun, dans le silence de son cœur ce matin, fait l'écho du serviteur de l'Ancien Testament qui a dit, « Parle, Éternel, car ton serviteur t'écoute. Donc, parle-moi, Éternel. » Dans le nom de Jésus et pour sa gloire, je te prie ces choses. Amen. Ça fait maintenant 37 ans que je suis chrétien et j'ai œuvré comme pasteur pendant 25 ans. C'est suffisamment de temps pour savoir que de pardonner correctement et entièrement, c'est un des aspects le plus difficile de la vie chrétienne. Si tu te dis rapidement, assis dans ta chaise confortablement ce matin, Non, je n'ai pas vraiment de difficulté à pardonner. Tu n'as probablement pas porté beaucoup d'attention au mot « pardonner correctement et entièrement ». De pardonner est aussi un des éléments les plus importants pour vivre dans la victoire chrétienne, dans la puissance chrétienne et dans la maturité chrétienne. La question se pose, pourquoi est-ce que c'est si difficile de pardonner pour nous, les êtres humains? Parce que pour le faire, on doit faire trois choses. Tout d'abord, il faut plier sur notre orgueil. Ça, c'est pas facile. Hein? Depuis Adam et Ève et leur péché, l'orgueil nous guette, chacun de nous, de la race humaine. Et pour pardonner, il faut piler sur notre orgueil. Deuxièmement, il faut renoncer à toute pensée et tout acte de vengeance. Ça aussi, c'est pas facile. Non, non, j'ai fait un U-turn et je suis une nouvelle créature. Je n'ai pas d'esprit de vengeance en moi. En a? Moi, j'en ai. Parce que j'ai une vieille nature pécheresse qui m'habite encore. Et pour pardonner, il faut exclure, il faut éloigner cette tendance naturelle de la chair et laisser le Saint-Esprit, qui est une voie surnaturelle, et ça veut dire non humain, non naturel, nous habiter avec compassion, avec amour, avec tendresse, etc. Troisièmement, pour pardonner, on doit surmonter la douleur émotionnelle qui nous a été infligée à travers l'offense. Et ça, c'est pas facile non plus. Que ce soit sur une échelle de 1 à 10, à notre avis, une douleur de 2 ou une douleur de 10, c'est jamais facile de surmonter ça. Le parent qui a vu son enfant tué par un conducteur qui était ivre au volant, doit trouver surnaturellement dans son cœur le pouvoir, la puissance du Saint-Esprit pour surmonter la douleur et pardonner à la personne qui a fait ça. Autrement dit, par tout cela, je suis en train de vous dire que d'accorder un plein pardon, ça nous coûte quelque chose. Ça nous coûte quelque chose. Mais les fruits et les bénéfices d'un vrai pardon valent certainement la peine. Dans un premier temps ce matin, j'aimerais faire avec vous un survol ultra rapide de ce que le Nouveau Testament enseigne sur le pardon. Je vous avertis que vous serez fort possiblement surpris par ce que vous entendez dans cette section. Je commence avec une question bonbon, question facile, elle est bien simple. Est-ce que Dieu nous pardonne? La réponse est oui. Je peux vous entendre plus fort? Oui. En effet, on pourrait avancer comme argument, très bien appuyé, que le pardon, la réconciliation, c'est le message central de toute la parole de Dieu. Moi, j'y crois. Depuis le début, Genèse, jusqu'à la fin. Déjà, quand Adam et Ève ont péché, au chapitre 3, Dieu a promis un Messie à ce moment-là. Je vais fournir un moyen de pardon et de réconciliation. À partir de ce moment-là, en Genèse 3, on voit Dieu qui a conclu une alliance avec Abraham. Ensuite, on a tout le système des sacrifices des animaux dans l'Ancien Testament qui est un symbole pour ce qui allait venir. Ensuite vient la naissance de Jésus. Jésus, à 30 ans, se présente publiquement, Jean-Baptiste le voit et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. » Jésus est allé à la croix, il a dit, « Tout est accompli. » Et dans 2 Corinthiens 5, 17, Paul dit, « C'est ainsi que Dieu étant réconciliant le monde avec lui-même à travers cette mort-là. » C'est le message central de la parole de Dieu. Donc, la réponse, vous l'avez eue, c'est oui. Félicitations. Deuxième question, est-ce que Dieu nous pardonne toujours? Je peux vous entendre?
Non.
Non. Il y en avait un qui a vu mes notes devant. Il a dit non. Peut-être, oui, il me l'a déjà entendu, là. Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans vos Bibles, à Matthieu chapitre 6. Les sceptiques seront confondus. Est-ce que Dieu nous pardonne toujours? Non. Dans Matthieu chapitre 6, les versets 14 et 15, en plein milieu du sermon sur la montagne, à la fin d'une section où Jésus a enseigné à ses disciples comment prier. Suite à leur question, « Maître, montre-nous comment prier. » Et Jésus a dit, « Vous devez prier ainsi, notre Père qui est aux cieux, etc. » À la fin de cette section-là, Jésus, non pas Jerry Cramer, mais Jésus, vous voyez les guillemets autour, ça veut dire que Jésus l'a dit. Il a dit au verset 14, « En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Chacun ici dit « Amen à ça ». Et on aimerait que le passage se termine là. Et je suis étonné par le nombre de chrétiens de longue date qui ne savent même pas que le verset 15 est dans la parole de Dieu. Parce que habituellement, quand les gens m'ont pas entendu prêcher et je dis « Est-ce que Dieu nous pardonne toujours? » La réponse est toujours « Oui ». Et la réponse, selon verset 15, c'est « Non ». Car Jésus a dit « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Est-ce que j'ai rajouté quelque chose à la parole de Dieu ce matin? Est-ce que c'est marqué dans vos Bibles, ce que je viens de dire? Moi, je suis un petit anglophone qui a étudié le français. On me dit que je me débrouille un petit peu, 30-quelques années plus tard, en français. Mais quand on a étudié une langue, on étudie même la grammaire. Pas la grammaire du Facebook ou du chat, mais la vraie grammaire. Et moi, j'ai appris que le mot « si », c'est un mot conditionnel, n'est-ce pas? Donc, « si ». Ton assurance, ta police d'assurance est payée au moment de l'accident, on va vous donner un endommagement. Si. Mais si votre assurance n'est pas payée, il y a d'autres conséquences, n'est-ce pas? Si vous terminez vos études de secondaire 5, vous allez gagner tel salaire. Mais si votre secondaire n'est pas terminé, il va y avoir d'autres conditions et conséquences. N'est-ce pas? Et Jésus dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Le message est clair. Merci, Jésus. Dans Marc, chapitre 11, verset 25, Jésus dit, « Quand vous priez, si, encore le même mot, deux petites lettres, un consonne et un voyelle mis ensemble qui pèsent gros. Quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui
afin que votre Père céleste vous pardonne vos fautes. Autrement dit, si vous ne le faites pas, Matthieu chapitre 6, votre Père céleste ne vous pardonnera pas vos fautes. Autrement dit, si vous venez au culte à Cap de la Madeleine et vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, et tu lèves tes mains pour chanter et tu viens au micro pour partager, Dieu t'entend même pas. Parce qu'il y a un prérequis. À l'université, il y a des prérequis. Tu ne peux pas aller là si tu n'as pas rempli la condition précédente. Pour aller à la coupe grée, il y a un prérequis. Ça prend un billet. Tu ne peux pas sauter la clôture. Mais il y a un prérequis pour que Dieu entende nos prières. Et c'est marqué clairement, pardonnez à votre frère ou à votre sœur, afin que votre Père céleste vous pardonne aussi. Je n'ai pas le temps d'expliquer théologiquement toutes les conséquences de ça. Si tu es dans ta chaise ce matin et tu dis, est-ce que ça veut dire que je ne suis pas sauvé? Non. Est-ce que ça veut dire que Dieu ne t'aime pas? Non plus. Oui, il t'aime. Mais ça veut dire que tu es handicapé, affaibli, enchaîné dans ta marche chrétienne parce que ton cœur est serré et verrouillé. C'est ça que ça veut dire. On continue. Matthieu 18, les versets 21 à 35. C'est un de mes passages préférés de la Bible. Quand j'étais jeune chrétien, quelqu'un m'a dit, un homme plus âgé que moi a dit, on n'est pas supposé d'avoir des versets préférés dans la parole de Dieu parce que c'est tout le conseil de Dieu. J'ai dit, ah oui? Lévitique, as-tu des versets préférés là-dedans? Moi, j'ai des versets préférés. Et ça, c'est parmi mes passages préférés. Matthieu 18, je vous place dans le contexte. On lit au verset 21, « Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda. » On arrête d'être là. C'est Pierre qui parle. Pierre, c'est un de mes préférés. On n'est pas supposé d'avoir des préférés, j'ai des préférés. Pierre, Paul et David. On va au ciel prendre une table dans le coin et discuter pendant à peu près 1000 ans ensemble. Ça, c'est pas long. Dans l'éternité, 1000 ans, c'est pas long. Moi, j'ai des choses à discuter avec David, Paul et Pierre. Pierre, qui n'avait rien à dire, a dit. C'est comme ça que je décris la vie de Pierre. Et il me fait penser à moi. Parlait tout le temps. Hein? Seigneur, même si tous les autres t'abandonnent, moi, je suis prêt à mourir avec toi. Pierre, n'ayant rien à dire, a dit. Pierre, le porte-parole des disciples, s'approcha de Jésus et lui demanda, Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois? Maintenant, il faut comprendre le contexte de ce passage-là, OK? Des fois, on lit la parole de Dieu, là, j'entends des personnes, même le dimanche matin, lire la parole de Dieu, et Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois... OK, c'était des êtres humains, là. Ils avaient des sentiments. C'était des gens comme toi et moi, OK? C'était des personnes vivantes. Il a dit ici, OK, quand il pose la question, sa poitrine est sortie pas mal, OK? De même, il est fier de son coup, là, OK? Il y a une marque d'orgueil. Il y a de l'orgueil à l'intérieur de cette question-là, OK? Parce que Pierre y a lu dans le Talmud et dans les écrits des rabbins qu'on devrait aller jusqu'à trois fois. Et Pierre, ici, est en train de dire, « Check bien ça, là, les gars, là. OK? OK? Pas trois fois, mais Seigneur, est-ce que j'irai jusqu'à sept fois? » Et le Seigneur lui répond, « Non. Je ne te dis pas d'aller jusqu'à sept fois, mais jusqu'à 70 fois sept fois. » Je ne suis pas le couteau le plus aiguisé dans le tiroir, là. 490, là. 490. Est-ce que Jésus est en train de dire à Pierre d'aller jusqu'à 490 fois? Et le 491e, pow, dans le kisser! Non! Il est en train de dire, Pierre, toujours. Toujours, il faut pardonner toujours. Et ensuite vient une parabole au verset 23 que nous connaissons tous. Une parabole très puissante de cet homme qui avait une dette envers le roi de, je vais le traduire pour vous puis le mettre en québécois, 5 millions de dollars. OK? C'est ça le montant qui est écrit là. Et le roi dit, tu vas me repayer la dette. Miséricorde, miséricorde, Seigneur, je m'en excuse. Donnez-moi du temps et je vais te repayer. Est-ce que c'est vrai? Il aurait pu vivre jusqu'à 2500 puis il n'aurait pas gagné 5 millions de dollars, à moins le 649 là, de Jérusalem. Là. Il n'y avait aucune chance de repayer ce montant-là. Et en voyant la demande de compassion, le roi dit, « Je te pardonne, j'efface la dette. » Ça va? Wouhou! Pardonnez, ça en va. En chemin, il rencontre quelqu'un qui lui doit 5 dollars. 5 dollars. Il est saisi par la gorge et dit, « Redonne-moi ce que tu me dois. » Miséricorde, miséricorde, s'il te plaît, donne-moi du temps et je veux te repayer. Non! Puisque tu ne peux pas me repayer, jette-le en prison. Et cette nouvelle vient aux oreilles du roi. Ça ne va pas bien pour lui. Amène-le ici immédiatement. Comment? Comment? Explique-moi comment. Après que je t'ai pardonné une dette de 5 millions de dollars, que tu ne peux pas trouver dans ton cœur de pardonner à ton frère 5 dollars, envoie-le en prison, lui, sa femme, ses enfants, puis tue-les. Savez-vous c'est quoi le problème, les amis? C'est que souvent, on pense que les autres ont une dette de 5 millions envers nous, et nous avons une dette de 5 dollars envers Dieu. Et c'est le contraire. Comment tu ne peux pas trouver dans ton cœur de pardonner à ton frère quand le Seigneur t'a pardonné une si grande dette déjà? Et la parabole finit au verset 35 avec les mêmes mots. « Voilà comment mon Père céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son frère. » Est-ce que je rajoute à la parole de Dieu ce matin? On continue. Colossiens 3, 13 dit, « Supportez-vous les uns les autres. C'est la définition pure de la vie d'une Église. Supportez-vous les uns les autres. Si on pouvait vivre la vie chrétienne tout seul, on n'aurait pas besoin d'une Église locale. Mais il n'y a personne qui est capable, et Dieu, dans sa sagesse et sa souveraineté, nous a regroupés ensemble dans des groupes, dans des familles qui s'appellent Église. Et Dieu, dans sa bonté, a placé une église ici à Cap-de-la-Madeleine il y a bien des années. Et Dieu vous demande, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Puisque nous avons déjà reçu le pardon vertical de notre dette de 5 millions, il nous demande de pardonner horizontalement la dette de 5 $. Luc 23, verset 34. Jésus dit, avec des clous dans ses mains et dans ses pieds, en train de payer pour tes péchés, pour ton orgueil, pour ta convoitise, pour ta colère, pour ton orgueil, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. De qui est-ce qu'il disait ça? On peut dire, mais il parlait de ceux qui ont cloué ses mains. Oui, c'est vrai. Mais il parlait de ceux qui crachaient sur lui. Et c'est vrai. Mais il parlait de ceux qui se moquaient de lui, qui disaient, « Ah, s'il est vraiment le Fils de Dieu, il descendrait de là. Il a sauvé d'autres qui soient sauvés lui-même. » Oui, c'est vrai. Mais il parlait de tous. « Père, pardonne-leur. » Autrement dit, « Père, je choisis de les pardonner, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Question. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi ceux qui ont cloué ses mains, cracher sur lui, se moquer de lui? Est-ce que vous voyez dans les évangiles qu'il y en a une de ces personnes-là qui a demandé d'être pardonnée? Non? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et le problème est que c'est souvent, on retient notre pardon jusqu'à ce que l'autre nous demande ou nous démontre qu'il s'excuse ou qu'il regrette ce qu'il a fait. Et ça, ce n'est pas biblique. Il n'y a rien de biblique là-dedans. L'exemple, c'est Jésus qui pardonne, qui prend l'initiative de le faire. Corrie ten Boom n'a pas attendu que Adolf Hitler vienne s'excuser d'avoir tué des Juifs pour trouver dans son cœur le pouvoir de pardonner à Adolf Hitler ce qu'il a fait. Si les parents qui ont perdu leur enfant, qui étaient tués par le conducteur Yves, attendent à ce que lui, il vienne s'excuser, ils peuvent attendre toute leur vie. Parce que peut-être il ne va jamais demander pardon. Mais nous avons besoin d'accorder notre pardon d'une façon prompte et de prendre l'initiative. Matthieu 6, 12, « Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Pendant des années, j'ai lu ce verset à l'envers. Je lisais ça, « Père, pardonne-nous nos offenses, puisque nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Mais ce n'est pas ça. C'est « de la même manière que ». Donc, ce n'est pas « Père, pardonne-moi, puisque j'ai déjà pardonné à mon frère. » C'est plutôt « Père, pardonne-moi mes offenses de la même manière que je pardonne à lui. » Et Dieu nous prend de notre parole. « Je vais te pardonner de la même manière que tu pardonnes. » Si tu ne pardonnes pas à l'autre, Jésus a dit en Matthieu 6, « Ton Père ne te pardonnera pas non plus. » Le vrai pardon, les amis, je vais vous dire c'est quoi. Je vais commencer par vous dire ce que ce n'est pas. OK? Le vrai pardon, ce n'est pas « cela ne me fait rien, ce n'était pas grave, je vais faire semblant que cela ne soit pas arrivé. » OK? Et ça, c'est souvent, trop souvent, le pardon évangélique. OK? C'est un pardon qui existe du coup en haut. Je vais te pardonner. Pas grave. C'était le pardon avec lequel j'étais élevé à Winnipeg dans ma famille. C'est pas grave. Oublie ça. Sauf que ce n'était pas oublié. Et c'était grave. Avec des lèvres qui sont en haut de mon cou, je dis, pas grave. Mais dans mes tripes, je le vis encore. Et tant et aussi longtemps que c'est dans mes tripes, je peux vous dire que ce n'est pas pardonné. Le pardon du cou en haut, ce n'est pas un pardon biblique. Et c'est ce que nous vivons. Cathy et moi, on a eu la chance extraordinaire d'aller en Israël en janvier de l'an dernier. Et à part d'avoir marché où Jésus a marché, puis voir tellement de choses que je ne vais jamais oublier, j'ai appris une chose. Le peuple hébraïque, le peuple juif, le peuple avec lequel Dieu a conclu son alliance, sont un peuple émotionnel, un peuple des tripes. Ils vivent avec leur trip. Aller dans un culte là-bas, là, c'est fascinant. Tout le monde danse, tout le monde hurle, tout le monde, ça vient des tripes. OK? Lisez des psaumes. Ça vient des tripes, les psaumes. Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand est-ce que tu vas rester en silence devant mes cris pendant que mes adversaires prospèrent? Seigneur, ça vient des tripes. Seigneur, ces ennemis-là, je veux leur casser les dents. Ah! Quoi? La première fois que j'ai lu ça en tant que jeune chrétien, ah! Casser les dents? Voyons donc! C'est loin d'être Jésus qui dit, tourne l'autre joue, hein? C'est parce que ce qu'il a dit, c'est pas ce que je vais faire. Ce qu'il a dit, c'est ce qui était dans ses tripes à ce moment-là. Et la blessure nous est infligée au niveau de nos tripes, et ça doit être pardonné au niveau de nos tripes, de nos émotions. Je vous informe que chaque fois que vous lisez le mot « cœur » dans votre Bible, chaque fois, c'est une mauvaise traduction. Chaque fois. OK? Ce n'est pas un petit shape de même, là. OK? Rouge de même. OK? Parce que pour les Hébreux, le siège des émotions, c'était des intestins, des tripes. Et ça veut dire que ça vient de là. Donc, je vous annonce qu'à Saint-Valentin, on se trompe, on ne devrait pas s'envoyer des cœurs, on devrait s'envoyer des intestins. La blessure est infligée ici, la blessure doit être pardonnée là. Le vrai pardon, c'est-à-dire la réalité est que cela m'a dérangé, c'était grave. Je ne peux pas faire semblant que cela ne soit pas arrivé. Et donc, je pardonne à travers ou à partir de mes tripes. Je vous donne une définition du pardon. C'est de se souvenir du passé, c'est-à-dire de l'incident, sans douleur émotionnelle. C'est simple, hein? Il n'y a pas beaucoup de mots là-dedans. Se souvenir du passé, de l'incident, sans douleur émotionnelle. La prochaine personne qui te dit, et c'est peut-être toi qui vas le dire cet après-midi ou demain, OK, forgive and forget. On pardonne puis on oublie. C'est pas vrai! C'est simplement pas vrai! C'est même pas vrai dans le cas de Dieu. Et les personnes disent, oui, mais Dieu a oublié nos fautes. C'est pas vrai! Dieu est omniscient! Il sait toutes choses! Quand je viens vers lui, puis je dis, Seigneur, j'ai péché avec ma colère. Il dit pas, je m'en rappelle pas. Il dit, je te tiens pas responsable de ça à cause de Jésus, parce que c'était couvert par Jésus. et il pardonne pleinement. Et il nous demande de faire la même chose. Ça, ça vient des tripes. Je dois vous expliquer quelque chose. Je sais que Dieu m'a choisi pour ce moment ce matin. C'est une pensée qui me dépasse. Je suis venu ce matin de Terrebonne, puis je ne parlais pas gros dans la voiture. Parce que j'ai dit, Seigneur, comment ça se fait que tu m'as choisi d'aller à Cap-de-la-Madeleine puis adresser la parole à ces gens qui vivent ce tumulte, cette tempête, de leur parler du pardon? C'est parce que j'ai passé par là. Et c'est pour ça qu'il m'a choisi. Il y a 4 ans, Cathy et moi, on est allés en thérapie. Il y a plusieurs ici, vous le savez. On était sur le bord de se divorcer. On n'était pas capable de s'entendre. On n'était pas capable de se parler. On n'était pas capable de se pardonner. Et pourtant, on connaissait tous les versets bibliques. Et on avait passé maintes et maintes fois par un pardon évangélique, du coup, en haut. J'avais pardonné à Cathy pas loin de 490 fois. Mais la douleur était encore là. On est allé en thérapie, puis Larry a dit, vous allez faire un exercice le premier soir, comme devoir. Vous allez faire un exercice de pardon. J'ai roulé les yeux, puis j'ai dit, pas encore, j'ai déjà pardonné combien de fois? Puis j'ai même argumenté, j'ai dit, Larry, c'est pas nécessaire, je pense que tout est pardonné. Puis elle a dit, mais pourquoi vous êtes ici en thérapie d'abord? Pourquoi t'as claqué la porte hier, Jerry? Pourquoi t'as pleuré quand Cathy a parlé? Il y a de la douleur dans tes tripes, Jerry. Il dit, oui. Il dit, je vais t'aider à aller le chercher. Pas loin de midi, tout le monde est prêt? Il a dit, je vais t'aider à le vomir. À le sortir. Et à t'en débarrasser. Il nous a expliqué un processus de pardon, c'est d'écrire une lettre à la personne qui t'a offensé. Dans ce cas-là, c'était Cathy. C'est pas le temps de dormir, tout le monde m'écoute. Lettre, lettre, la personne ne la voit jamais. Tu ne l'envoies pas, tu ne la donnes pas, la personne ne la voit jamais. Jamais, jamais. Est-ce que j'ai dit jamais? Jamais. J-A-M-A-I-S. Jamais. D'écrire la lettre, c'est un exercice pour toi. Et tu donnes jamais la lettre à l'autre personne. C'est pour t'aider à sortir ce qui est dedans. Mais savez-vous ce qu'on fait entre évangéliques? On s'en va chez Nichols et on s'assoit puis on essaie de se pardonner. OK? Avec 50 autres personnes dans le restaurant, avec une serveuse qui vient nous déranger à toutes les 5-7 minutes, là, on va parler de choses lourdes là, de nos tripes, là, puis se réconcilier. C'est faux, c'est impossible. Parce qu'on va mettre nos gants blancs, puis on va dire, « Frère, est-ce que tu sais jusqu'à quel point tu m'as blessé, là? » Puis l'autre ne comprend pas, puis on essaie de s'expliquer, puis se défendre, puis non, c'est pas ça que je voulais dire, et ça aboutit pas. Dans la lettre, tu peux dire ce que tu veux. Je veux te casser les dents. Vas-y. Vas-y. Oh! Je ne peux pas dire ça. Qu'est-ce que Dieu va penser? Dieu, il pense, il sait déjà que c'est dans tes tripes. Il n'est pas étonné par ça. J'ai dit, je ne sais pas si je vais être capable d'écrire quelque chose. J'ai déjà pardonné à Cathy. Notre conseiller Larry a dit, « Jerry, enlève ton chapeau de pasteur, puis mets-toi nu devant Saint-Esprit émotionnellement, puis écoute-le. » J'ai dit, « D'accord. » J'ai mis mon stylo sur la page, cherché par où commencer, et il m'a amené jusqu'à nos fréquentations avant qu'on soit mariés. Et j'ai écrit 15 pages de cancer qui était dans mon cœur depuis tout ce temps-là. Wow! Je ne pouvais pas croire que ça a sorti. Mais quand ça a sorti, notre relation était renouvelée. En passant, Cathy a écrit autant de pages à mon sujet. Le pardon est la puissance de Dieu pour restaurer et libérer des personnes. Une fois que ça s'était terminé, je suis retourné à la maison. La semaine d'après, j'ouvre ma Bible. Je vais lire dans la parole. Mais on m'a enseigné en thérapie comment écouter Dieu. Auparavant, dans mon culte, je parlais à Dieu. « Seigneur, assieds-toi, j'ai des choses à te dire. »« Bon, mon fils, ma job, ok? » Non. Arrêtez et sachez que l'Éternel est Dieu. Ça veut dire « tais-toi » et écoute. Je m'installe et le Seigneur dit « Ce que tu as fait envers Cathy, tu en l'as écrire aussi à ta mère, à ton beau-père. » Wow! Je commençais à le faire. Ma mère, depuis 2 ans, c'était une relation tellement tendue là. En québécois, on dit qu'on n'était pas capable de se sentir. OK? 2 ans. Elle m'avait tellement blessé, elle m'avait tellement humilié publiquement dans une gathering, dans un rassemblement à Winnipeg, là, avec tous les cousins, toutes les cousines, 60 personnes. Elle a dit des choses à mon compte, là. Je me sentais gros comme ça, là. J'ai demandé à mon père le lendemain, est-ce que tu pourrais dire à maman de s'excuser auprès de moi? Non, c'est ma femme, je dois la défendre. Parfait. Je demandais à mon frère, qui est chrétien, est-ce que tu pourrais être le médiateur entre nous pour que maman puisse me dire, je m'excuse? Il a dit, oui. J'ai pris l'avion, j'ai retourné, j'ai pris l'avion. Lui a pris l'avion de Vancouver, moi j'ai pris l'avion de Montréal. Pour aller à Winnipeg, ça coûte des sous ça, ça coûte du temps. Pour que je puisse entendre ma mère dire, « I am sorry, Jerry, that I hurt you. » Je m'excuse que je t'ai blessé. Elle n'a jamais dit. Elle n'était pas capable de le dire. Elle n'était pas capable de voir qu'elle m'avait blessé. Mais dans la lettre que j'ai écrite par la suite, tout est sorti. Et j'ai été libéré. Complètement. Quand le vrai pardon est accordé, la relation change. On voit les fruits. Si tu veux poser la question ou non, est-ce que j'ai vraiment pardonné à cette personne? La réponse est là. La relation change quand le vrai pardon est accordé. Quelques semaines plus tard, j'étais au téléphone avec ma mère, puis on parlait des mêmes choses. Ma mère n'a pas changé. Mon cœur a changé. Mon cœur était libéré. Il n'y avait plus de cancer, il n'y avait plus de pus, il n'y avait plus de poison. Mon cœur était libéré. Parler de puis le beau temps, les Blue Bombers, n'importe quoi. Puis à la fin, je dis, OK, mais on va essayer de venir à la fin du mois d'août. Puis en tout cas, là, bonne semaine. Puis maman, je t'aime. Cathy était à côté du four avec une casserole. Ta mère, ça? Elle dit, oui. Jerry, en 30 ans de mariage, tu n'as jamais dit à ta mère, je t'aime. C'est parce qu'elle est pardonnée, Cathy. C'est ça que le pardon fait. Il y a des personnes dans cette église qui ont besoin de pardonner à un père, une mère, un adulte qui t'a abusé quand tu étais jeune, un professeur, un beau-frère, un enfant. C'est possible que cette personne est déjà décédée. Tu vas écrire une lettre. Non, je ne parle pas de parler aux morts. Sors ce qui est dans tes tripes pour être débarrassé du poison qui t'habite. Il y a des personnes qui ont besoin d'écrire des lettres que l'autre personne ne va jamais voir à quelqu'un qui t'a offensé dans cette église. Je vous mets en garde, comme Église, de vouloir tout laver, tout en public. Je vous mets en garde. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une place pour ça. Frère, je vous mets en garde. Le vrai travail doit se faire dans les cœurs, dans le silence. Et quand c'est fait devant Dieu, les relations vont changer. Allez dans votre porte, dans votre chambre, ferme la porte. Et Dieu qui voit dans le silence va voir ton cœur et débarrasse-toi. Pour y arriver, on doit pardonner authentiquement et complètement à partir de nos tripes. En passant, je vous donne une définition du non-pardon. Vous êtes prêts? C'est de boire du poison, c'est-à-dire se faire très mal et s'attendre à ce que l'autre meure. Tu es en train de te tuer toi-même. Dans le temps qui me reste, et très rapidement, je vais répéter ça très rapidement, là, je l'ai dit dans mon introduction, le pardon nous coûte quelque chose, à quoi dois-je me renoncer? L'attente, l'espoir que la personne comprendra un jour à quel point elle t'a vraiment blessé. Et l'attente, l'espoir que la personne qui t'a offensé aura à payer un jour pour son offense. Ça appartient à Dieu. Ça appartient à Dieu. Publiquement, on veut entendre que l'autre s'excuse à notre égard. Il ne faut pas s'attendre à ça. Il faut aller en avant, prendre l'initiative de pardonner. Dans le temps qui me reste ce matin, j'aimerais très rapidement amener une deuxième exhortation biblique devant vos cœurs, beaucoup plus rapide que l'autre. J'ai dit deux P. Important. Le deuxième, c'est la paix. P-A-I-X. En Matthieu 5, 9, encore une fois, dans le sermon sur la montagne, Jésus dit, « Heureux, bénis, soient ceux qui bâtissent la paix. Ils seront appelés des vrais enfants de Dieu. » Dans sa lettre à l'Église des Romains, l'apôtre Paul enchaîne sur ce sujet en disant au chapitre 12, verset 18, « Soyez en paix, c'est-à-dire vivez en paix avec tous les hommes. Si cela est possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous. » Savez-vous ce qui est fascinant dans ces deux textes bibliques? Est-ce qu'énormément de chrétiens nord-américains ignorent complètement? Il y a dans les deux passages un appel à l'action. La paix biblique n'est pas simplement une absence de guerre ou une absence d'hostilité ouverte. OK? Ça, c'est pas la paix. Pendant 2 ans, j'ai pas parlé à ma mère. On s'est pas chicané une seule fois. C'est sûr, on s'est pas parlé. Ça, c'est pas la paix. Ça, c'est pas la paix. Ça, c'est pas la paix. La paix biblique, c'est d'être un bâtisseur de paix. C'est de prendre l'initiative. C'est de faire ta part pour bâtir la paix. La paix biblique, c'est de prendre l'initiative, de faire ma part pour rebâtir des relations. Cette Église ne vit pas dans la paix présentement. Je ne vous annonce rien. Je viens à l'intérieur, je vois des lettres des diacres, je vois des lettres de d'autres, c'est tout dans votre bulletin. Et à l'intérieur de la lettre, ça dit, on a hâte de retrouver le chemin de la paix le plus rapidement possible. Votre manque de paix, je vais le dire en québécois, votre chicane entre vous ne glorifie pas Dieu. Notre adversaire spirituel, le père de la destruction, Satan, il rit dans sa barbe et il en prend plaisir. Je crois que chacun de vous détient une partie de la solution en pardonnant authentiquement et entièrement à ceux contre qui vous avez quelque chose et en bâtissant la paix. Tu peux contribuer, chacun de vous, à la restauration de cette Église. Ce n'est pas un travail qui appartient seulement aux anciens, aux diacres, au comité transitoire. C'est un travail pour chacun dans l'Église. Au contraire même, j'aimerais que les membres de l'Église donnent l'exemple au leadership. Là où il y a un manque de pardon, soyez le premier à accorder le pardon. Vous, les membres du leadership que Dieu a établi dans cette Église, l'appel de Dieu est clair pour vous. Pendant trop longtemps, on a joué dans l'Église à qui a raison. La valeur numéro un avec laquelle j'ai été élevé à Winnipeg, je peux vous dire, numéro un, ce n'était pas de respecter les aînés, ce n'était pas d'aimer mon prochain, c'était d'avoir raison. Vous vous demandez pourquoi Cathy et moi, on a eu une tempête dans notre mariage pendant 30 ans à se buter à quelqu'un qui voulait avoir raison. Le but de la vie chrétienne, ce n'est pas d'avoir raison. Frère, oublie si tu as raison ou non et va vers l'autre et réconcilie. Ne laissez pas cette Église se démanteler à cause de votre orgueil, à cause de votre chicane. Dieu a des personnes qu'il veut sauver dans cette ville et dans cette région. Et il veut le faire par vous, parce que vous êtes ses ambassadeurs. Savez-vous que Dieu est tout-puissant et s'il voulait, ce soir, il pourrait écrire le message du salut dans le ciel, avec son doigt ce soir. Mais il ne le fait pas. Il a choisi d'utiliser vous comme ambassadeur pour les personnes dans cette région. Et il veut sauver des personnes. Ne laissez pas votre non-pardon soit un obstacle à son œuvre. J'ai dit que ça fait 37 ans que je suis chrétien. Je veux conclure en vous disant ce qui m'attriste le plus comme chrétien. Quand je vois un non-chrétien de ma ligue de Balmol, de mon entourage, me dire « Je ne suis pas intéressé, je suis trop occupé pour considérer des choses de Jésus », ça m'attriste. Quand j'entends un non-chrétien me dire je ne crois pas toute cette blablabla concernant Jésus. Ça m'attriste. Mais je dors en paix en disant, Seigneur, j'ai proclamé ton message et il va se présenter devant ton trône un jour. Mais ce que je n'arrive pas à avaler, c'est quand un non-chrétien me dit, je suis intéressé aux choses de Dieu, mais pourquoi devrais-je me joindre à des personnes dans une église qui se chicanent et qui ne vivent même pas ce que la Bible dit. Ça m'attriste. Recherchez la paix par le chemin du pardon. La solution est à votre portée. Ça réside dans vos cœurs. Vous ne pouvez pas aller le chercher chez Costco. Ce n'est pas dans les conseils de M. Strout, de François Fréchette, ni de Jerry Kramer. La solution réside dans ton cœur. qu'est-ce que tu vas faire pour contribuer à la restauration de cette église? Prions. Jésus, cette église locale est ton église. Tu es le chef, tu es le sauveur, tu es le Seigneur de ce corps local. Chacun des membres né de nouveau et baptisé est ton enfant. Entends, Seigneur, des paroles de nos bouches et les gémissements de nos tripes ce matin pour t'implorer de faire une œuvre de restauration. Viens visiter ton peuple ici pour que leur lumière brille pour Jésus dans cette ville et dans cette région. Fais en sorte que, comme dans notre mariage, qu'après la tempête, qu'ils soient plus forts qu'ils ont jamais été, parce que le pardon a été accordé pleinement, entièrement, d'une façon authentique. Viens visiter, Seigneur, ton peuple. Pour ta gloire, Jésus. Amen.